RFI 7h30 à Khartoum et Paris 6h30 à N'Djamena. Bonjour Vincent Dublange.
Bonjour Andréane, bonjour tout le monde.
À la une de votre humanitaire qui continue de s'aggraver au Soudan.
Oui, à l'extérieur du pays également. Andréane, depuis plus de 2 ans maintenant que dure cette guerre, 4 millions de réfugiés, notamment en Égypte. Reportage au Caire dans une minute. La première audience au fond hier au Tchad pour Succès Masra, l'opposant dont on entendra l'un des avocats dans un instant. Comment comprendre en RDC le message de Martin Fayoulou? On l'a entendu hier, l'opposant congolais tend la main à Félix Tshisekedi. Analyse à suivre. Nous sommes à Bangui dans ce journal pour le bilan des 10 premières années de la Cour pénale spéciale. Quels investissements français en Afrique? Quelles ambitions pour le secteur privé? On en parle avec notre invité Étienne Giros après cette édition. On parlera sport aussi. Sand Galayel Moukao, mais avec beaucoup d'envie. C'est une sélection des Léopards de RDC très studieuse qui est en ce moment dans le centre de la France à Orléans. 2 matchs amicaux au programme. Le Mali demain, Madagascar dimanche. Antonio Guterres demande une enquête urgente au Soudan. Le secrétaire général de l'ONU condamne dans les termes les plus forts l'attaque d'un convoi humanitaire dans l'ouest du pays lundi. Convoi qui patientait à environ 80 km d'El Fasher au Darfour Nord. Une partie de la quinzaine de camions a été incendiée. Il y a 5 morts. Les véhicules étaient clairement identifiés PAM ou UNICEF. L'armée régulière soudanaise et les paramilitaires se rejettent la responsabilité de cette attaque. La guerre au Soudan, qui dure maintenant depuis plus de 2 ans, elle a forcé des millions de personnes à fuir, beaucoup à l'intérieur du Soudan et une partie à l'extérieur. L'Égypte accueille le plus de réfugiés, 1 500 000 selon les derniers chiffres que l'ONU a publiés hier. Leurs conditions de vie sont difficiles, comme en témoigne ce reportage de notre correspondant au Caire, Martin Dumas-Primbaud.
Naïda Mansour est arrivée en Égypte en juillet 2024 et comme de nombreux compatriotes, elle a mis plus d'un an à obtenir sa demande d'asile.
C'est une situation vraiment inhumaine car on ne peut pas vivre vraiment ici en tant que réfugié protégé et pris en charge. Il y a des violations massives des droits de l'homme. Les ouvriers soudanais dans les usines et sur les chantiers travaillent 12 heures par jour sans mesure de sécurité et sans indemnisation en cas d'accident du travail.
Dans ces conditions, certains ont pris la route du retour dès l'annonce de la reprise de Khartoum par l'armée régulière à la fin du mois de mars dernier.
Le problème, c'est que la situation ne s'améliore pas là-bas. Au contraire, il y a maintenant de nombreux cas de choléra. Les eaux sont contaminées à cause des armes utilisées et des nombreux cadavres jetés dans le Nil.
Débordée par l'afflux et paralysée par les coupes budgétaires, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés en Égypte a été contrainte, fin mars, de suspendre tous ses programmes d'aide médicale. Martin Dumas-Primbaud, Le Caire, RFI.
1 500 000 réfugiés soudanais en Égypte. Le Soudan du Sud en accueille 1 100 000. Le Tchad, 850 000. La Libye, l'Éthiopie et la Centrafrique hébergent quant à eux 370 000 réfugiés venus du Soudan. Au Tchad, l'opposant Succès Masra a été entendu hier. Première audience sur le fond du dossier. L'ancien premier ministre de transition a été arrêté chez lui le 17 mai à N'Djamena. Le juge d'instruction en charge de l'affaire a donc débuté hier l'examen sur le fond, audition qui a débuté en fin de matinée. Elle s'est déroulée à la coordination générale de la police judiciaire. C'est là où le président du parti Les Transformateurs est écroué. Pour rappel, il est poursuivi notamment pour incitation à la haine et à la révolte, constitution et complicité de bandes organisées notamment. Succès Masra qui est accusé d'avoir incité au massacre de 42 éleveurs par des cultivateurs dans le Logon occidental, mi-mai, une accusation que réfutent ses avocats. Il dénonce des poursuites à caractère politique. Écoutez maître Francis Kadjilembay, il fait partie du collectif des avocats de Succès Masra. Pour lui, cette première audience sur le fond s'est bien passée.
C'est pour la première fois que notre client vient d'être entendu au fond par le juge d'instruction. Et j'ai pu affirmer que tout s'est bien passé. L'interrogatoire au fond s'est déroulé sans encombre. Nous attendons la suite de l'instruction. Pour le moment, nous sommes en instruction, nous ne pouvons pas en dire plus. Nous disons simplement pour la journée, ça s'est plutôt bien passé, sans problème, et nous restons confiants. Il a le moral, il avait le moral, il a su répondre à toutes les questions qui lui ont été posées. On espère que il va continuer à garder le moral jusqu'à la fin de la procédure en cours.
L'avocat de succès Masra, l'un des avocats de succès Masra, Francis Kadjilemba, est interrogé par Alexandra Branjon. En République démocratique du Congo, Martin Fayoulou a surpris en annonçant ce lundi sa volonté de rencontrer Félix Tshisekedi, main tendue, inattendue, surtout après avoir co-signé il y a un mois à peine un communiqué avec Joseph Kabila qui appelait à un dialogue national. Que signifie ce geste et comment répond Félix Tshisekedi ? Patient Ligodi.
D'autres attributs à Martin Fayoulou, même l'ambition de devenir Premier ministre. Des rumeurs que ce dernier balaie d'un revers de main, qualifiant ses spéculations d'insultes à sa personne et à son combat. Concernant la rencontre qu'il souhaite avoir avec Félix Tshisekedi, son équipe précise qu'il ne s'agira pas d'un simple dialogue privé entre les deux hommes. Sur RFI, Martin Fayoulou lui-même a expliqué que son initiative vise à débloquer, dit-il, la situation actuelle, constatant que Félix Tshisekedi refuse jusque-là de rencontrer les religieux qui ont proposé un dialogue national. Martin Fayoulou révèle avoir informé les évêques il y a 2 mois de son intention de rencontrer Tshisekedi pour surmonter le blocage. Il a également réitéré cette position il y a 2 semaines à Fornia Singbe, médiateur désigné par l'Union africaine. Si Tshisekedi ne veut pas, j'aurai fait ma part. Je m'approcherai de toute personne qui est contre la balkanisation de notre pays, affirme Martin Fayoulou à RFI. Côté présidentiel, Félix Tshisekedi a été surpris par la main tendue. Selon plusieurs sources, la rencontre entre les deux hommes pourrait avoir lieu dans la semaine.
Impatient Ligodi. Au service Afrique des RFI, documenter la vie impossible des exilés africains en Libye. Ils sont autour de 20 000 accroupis dans les centres de rétention gérés par les gardes-côtes libyens. Ce sont les chiffres des organisations non gouvernementales, des chercheurs qui travaillent sur le sujet. Ils rappellent régulièrement que ces gardes-côtes libyens sont financés par l'Union européenne. Bruxelles continue de faire de la Libye un allié dans sa volonté de ralentir fortement l'immigration africaine vers l'Europe. Ouda Ibrahim a pu interroger un chercheur qui documente depuis maintenant des années les exactions des services libyens. Il nous raconte.
Ahmad Lamloum a recueilli les témoignages de migrants interceptés en mer et dans le désert par les gardes frontières. Il visite régulièrement les centres de rétention. Ce chercheur, qui préside le centre d'études de Benghazi sur les migrants et les réfugiés, dénonce une corruption généralisée au sein des services sécuritaires.
L'ensemble des appareils sécuritaires ont compris que l'immigration leur ramène beaucoup d'argent. Ces appareils sont en concurrence entre eux, par exemple pour la gestion des migrants. Et il y a au moins 6 appareils sécuritaires qui interviennent dans ce dossier.
Ahmad Lamloum raconte les confiscations des téléphones portables et de l'argent des migrants dès qu'ils sont interceptés en mer par les gardes-côtes, alors que les navires utilisés sont financés par l'Union européenne. Les exactions et les vols des migrants en mer sont devenus la norme, explique le chercheur, et les autorités libyennes et européennes ferment les yeux.
Le ministre de l'Intérieur à Tripoli est lui-même impliqué dans cette affaire. Il sait très bien ce qu'il se passe dans les centres de rétention qu'il est censé gérer. C'est lui le premier responsable des gardes-côtes libyens et des gardes-frontières. C'est une première qu'un ministère de l'Intérieur intervienne pour garder les frontières alors que c'est du ressort de l'armée.
Malgré ces exactions, selon l'OIM, le nombre de migrants en Libye a augmenté de 4% depuis le début de l'année.
En Côte d'Ivoire, au moins 5 détenus décédés, 29 blessés, dont 6 agents pénitentiaires. C'est le bilan donné par le parquet d'un affrontement hier entre forces de l'ordre et prisonniers dans la maison pénale de Bouaké. D'après le procureur de la République de la grande ville du nord de la Côte d'Ivoire, les gardiens effectuaient une fouille de routine dans les cellules quand ils ont été attaqués par des détenus armés de gourdins ou de machettes. La Côte d'Ivoire à la une de votre débat du jour, dont appel sur l'actualité. Alors que le fichier électoral mis à jour est publié, que les oppositions demandent toujours sa révision, qu'en pensez-vous ? On vous attend dès 8h10, temps universel et d'Abidjan. Un mot du Mali, avec ce couvre-feu institué dans toute la région de Ségou, dans le centre du pays, pour 30 jours reconductibles entre 21h et 6h du matin. Les véhicules militaires et les ambulances sont les seuls autorisés à circuler dans toute la région de Ségou dans un contexte de multiplication des attaques djihadistes dans le centre du Mali. En Centrafrique maintenant, la Cour pénale spéciale a célébré hier ses 10 ans d'existence. Le 3 juin 2015, elle était initiée lors du forum de Bangui. Dans la pratique, les premières enquêtes ont en réalité débuté entre 2018 et 2019. Ce tribunal hybride est composé, on le rappelle, de magistrats nationaux et internationaux. Ils sont là pour juger des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis en Centrafrique depuis 2003. Les autorités et certaines victimes saluent de vraies avancées, mais tout le monde n'est pas de cet avis. Bilan d'étape avec Rolf Steff Domialeux.
Considérée comme un symbole d'espoir en Centrafrique, la création de la Cour pénale spéciale répondait en 2015 à un appel en faveur de la lutte contre l'impunité dans le pays. 10 ans après, André-Michel Luanga, son président, présente les grandes réalisations de la CPS.
Nous avons déjà organisé 3 procès, dont le tout premier est arrivé à terme définitivement, où il y a eu même déjà des réparations. Les 2 autres, à savoir Ndélé 1 et Ndélé 2, sont presque bouclés.
Si 3 personnes ont été condamnées définitivement et 7 en première instance, des victimes remettent en cause l'efficacité de la Cour. Étienne Oumba est fondateur de l'Association des victimes unies de Centrafrique, AVUC.
Depuis 10 ans, les dossiers ne bougent pas. Cette juridiction ne juge que les petits soldats, mais les gros poissons sont en liberté. Ce que nous constatons, c'est que les activités de la CPS sont influencées par les autorités centrafricaines.
Des critiques que balaie André-Michel Luanga.
Depuis que je suis là, je n'ai jamais reçu des instructions ou du moins des pressions quelque part. Aucun juge ne s'est plaint de ce qu'il ne pouvait pas exercer son ministère parce qu'il y avait la pression ou qu'il n'était pas indépendant dans tout ce qu'il faisait comme activité ici.
Après le retrait des États-Unis, principaux contributeurs à hauteur $1 million chaque année, la CPS rencontre aujourd'hui des difficultés financières qui réduisent sa capacité d'action. Rolf Estève Domialeu, Bondi. RFI.
En France, l'organisation Sherpa se constitue partie civile dans l'affaire dite des biens mal acquis, en tout cas dans le volet gabonais. Il y aura peut-être un procès en France. A priori, ce ne sera pas avant 2026. 15 ans après l'ouverture de l'enquête de l'affaire, le juge d'instruction a terminé ses investigations. C'est au parquet national financier de dire qui des 11 mis en cause il souhaite voir juger. Et pour quel chef d'accusation? Dans cette affaire, plusieurs membres de la famille de Feu, le président gabonais Omar Bongo, seront soupçonnés d'avoir acquis avec l'argent de la corruption un important patrimoine immobilier en France. Sherpa choisit donc de se porter partie civile pour mettre en lumière, dit-elle, le rôle des intermédiaires financiers, en particulier le rôle de la banque française privée, BNP Paribas. Écoutez Jean-Philippe Feugel, il est chargé de contentieux et de plaidoyer à Sherpa.
Dans l'affaire en cause, on soupçonne que la banque a manqué à ses obligations de vigilance en ne vérifiant pas l'origine des fonds qui provenaient d'Atelier 74, une entreprise fictive créée par le clan Bongo pour blanchir l'argent issu de la corruption au Gabon sur les territoires français. La législation en matière de lutte anti-blanchiment doit être modifiée, d'autant plus que une nouvelle directive européenne a été adoptée en la matière. Donc ce sera l'occasion pour Sherpa de replacer sur le devant de la scène la nécessité pour les banques d'être plus vigilantes par rapport à l'origine des fonds qu'elles reçoivent et ça passe évidemment par une remise à niveau de la législation anti-blanchiment. Aujourd'hui, on a du blanchiment en matière de crypto-monnaie, on a une diversification des personnes qui aident au blanchiment de la corruption et évidemment, Sherpa en profitera pour rappeler ses revendications en la matière.
Un propos recueilli par Amélie Tulet. Andréane Mellard, c'est à vous.
Merci Vincent Dublonge, à tout à l'heure.